batterie. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les droits paternels qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi, arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser.
Et oui, donc nous voilà arrivés dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus Lille
106.6 FM.
Voilà, donc c'est l'émission La Voix sans maître, donc l'émission de
tous les anarchistes du monde entier.
C'est ça. Ouais.
Et des autres aussi parfois.
Génial.
On va commencer ce soir. On accueille d'abord deux de nos camarades de La Brique, du journal La Brique. Du coup, on va en causer largement dans cette émission.
Bah, ça nous fait plaisir. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu La Brique présentée, vu La Brique présenter son numéro dans La Voix sans maître. Et du coup, comme ça fait un bail que vous n'êtes pas passé, moi j'imagine qu'une bonne part quand même de l'auditoire radiophonique là connaît La Brique, mais quand même c'est toujours intéressant de, surtout dans une émission qui a des visées de présentation de fonctionnement libertaire ou anarchiste, de connaître un petit peu les gens qui viennent présenter des choses et la manière dont ils fonctionnent, donc en l'occurrence La Brique. Donc je sais pas si vous avez un pitch préparé, je sais pas. Alors déjà, est-ce qu'on dit bimestriel ou
on dit bimestriel, même si de fait la publication est parfois un petit peu plus sauvage que ça, c'est-à-dire que des fois on prend un petit peu de retard. Ces derniers temps, on avait plutôt
réussi
à tenir les... Alors, peut-être pas de l'avance, il faut pas charrier, on n'est pas là pour ça, mais ouais, à tenir à peu près les délais. Après, de fait, il y avait eu les vacances, et donc du coup, ça faisait 4 mois qu'on n'avait rien sorti, ce qui nous a laissé un petit peu de temps pour cogiter sur le numéro dont on va parler, donc sur la question des transports et de la mobilité. Donc, La Brique, en deux mots, c'est quoi? C'est un bimestriel, donc qui coûte 2 euros, et ce, depuis 8 ans maintenant. Qui ne subit pas les foudres de l'inflation, qui est présent en kiosque, mais aussi qui est distribué, enfin vendu, faut pas charrier non plus, en crié, qui est vendu par certains bars du côté de Lille, un petit peu aussi du côté de Roubaix. Qui est donc sans subvention, sans publicité, sans aucune hiérarchie. Les dessinateurs, dessinatrices participent tous les lundis à 18h à nos réunions, donc avec les rédacteurs et rédactrices, pour cogiter à chaque fois sur un numéro qui traite, voilà, grosso modo, de choses qui nous intéressent sur la métropole, même si on s'interdit pas des fois d'aller voir ailleurs. Je sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter pour compléter un peu le...
Non, je crois que c'est parfait.
Le topo, quoi. Mais...
Génial. Et peut-être rajouter que depuis un certain nombre de numéros maintenant, vous êtes parti sur des numéros thématiques.
Voilà, donc pendant longtemps, La Brique, elle était confectionnée de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y avait plein de papiers sur tous les sujets qui nous intéressaient, plus une petite enquête dans les 4 pages centrales, et puis petit à petit, on s'est dit qu'on avait on amenait des choses un petit peu plus structurées du point de vue de la critique sociale qu'on voulait amener en faisant des numéros un peu thématiques. Donc là, effectivement, on a choisi une thématique peut sembler un peu grisâtre comme ça a priori, hein, donc est, encore une fois,
circuler, il y a rien à voir.
Voilà, donc
le titre engageant,
le choix de la une invite à l'achat, hein, c'est un choix éditorial assumé. Donc circuler, il y a rien à voir, c'est quoi? C'est une manière d'entrer dans un sujet qui peut paraître un peu technique, en même temps qu'il est hyper politique, et d'autant plus qu'il est niché en plein cœur de nos quotidiens. Donc c'est la question des transports, pourquoi on est mobile, comment on est mobile, et donc c'est un peu toutes ces questions là qu'on a essayé de mettre à plat.
D'ailleurs, on se dit que c'est mobile, mais ce qu'on voit sur l'énorme image de couverture sur la première page et la quatrième, enfin la dernière, c'est beaucoup de gens qui sont plutôt coincés dans leur bagnole, coincés dans leur montés dans leur train, avec les militaires sur le bord des rails. Il y aurait le moyen de faire de la description d'image pendant très très longtemps sur ce super... sur cette super couverture.
On peut remercier Florent Groisel d'ailleurs pour ça. Pour sa couche.
On est sans publicité, mais on en fait des fois quand même un peu.
C'est l'information. Voilà. Et donc ouais, sur la mobilité.
Et du coup, moi, juste un petit mot. C'était aussi évidemment quand on a commencé à parler au mois de juin, quand on a fini le précédent numéro dont le dossier était sur la bière. on a commencé à se poser la question de quel serait le prochain, et quand on est revenu en septembre, bah, directement, on se l'est reposé. Et évidemment, il y avait l'échéance qui arrivait là, des régionales. Vu ce qui allait se tramer et ce qui se trame, et bon, c'était pas très très engageant, mais on voulait aborder quelque chose qui touche quand même au conseil régional. C'est-à-dire, le transport, c'est quand même une des prérogatives principales du conseil régional. Et du coup, ça nous est venu un peu assez facilement, outre qu'en plus, c'est un sujet qui touche un peu tout le monde, en fait, la manière de bouger. Et en fait, assez vite, on a un peu élargi la chose à la notion de mobilité, parce que c'est un truc qui, quand on a commencé à travailler dessus, sur les modes de transport en tant que tel, train, métro, voiture, vélo, etc., il y avait toujours ce terme qui revenait, surtout de la part des décideurs, des pouvoirs publics. Une injonction à la mobilité. Du coup, c'est aussi ça qu'on a voulu un peu déconstruire dans le numéro, plus que simplement analyser tel ou tel truc, les grilles tarifaires, machin, mais ce qui sous-tend en fait la logique de la politique des transports et qu'on cache derrière ce joli terme à valeur positive qu'est la mobilité. On en parlera un petit peu plus après, je pense.
Et il y a aussi peut-être pour le cadre aussi, c'est que c'est aussi un slogan là, de Lille, enfin de le Nord comme carrefour avec toutes ces marchandises, parce que nous qui sommes transportés, mais c'est aussi des marchandises que vous racontez dans votre journal, c'est aussi un autre point important.
C'est, en fait, le fait est que c'est même concrètement la marchandise qui fait bouger les hommes un peu, c'est ça qui revient pas mal.
En fait, un des points de départ, c'était précisément de souligner ça, c'est-à-dire, d'un côté, on nous fait chier depuis 35 ans maintenant avec la nécessité de rendre libre, par tous les moyens possibles, la circulation des marchandises, et par contre, pour ce qui est des humains, c'est très variable et c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et donc, du coup, c'était de revenir...
D'où ce papier, notamment sur le prisonnier de Calais, sur tous les gens qui essayent justement de voyager librement et d'aller, en l'occurrence, les migrants à Calais essayent d'aller en Angleterre ou en Grande-Bretagne et en fait sont coincés là-bas et les mêmes qui cherchent à fluidifier tous les flux de transport mettent tout ce qu'ils peuvent dans la balance et des millions et des millions et des millions d'euros pour bloquer les personnes.
Voilà, grosso modo, l'idée c'était de repartir de cette espèce de slogan européen, enfin tel que le néolibéralisme européen l'a posé depuis une trentaine d'années, qui vante la libre circulation des hommes et des marchandises en disant non seulement les hommes circulent et les femmes circulent moins facilement que les marchandises, mais en plus c'est souvent les marchandises qui font se déplacer les hommes. Et donc c'était de revenir un peu sur toute la philosophie qui sous-tend cette phrase a priori anodine qui met plein de choses sur le même plan, alors que derrière la réalité elle est faite de violence et de domination.
Ce qui est intéressant aussi avec ce terme-là, c'est qu'il ne se cantonne pas au déplacement, au pur déplacement, au transport. C'est que la mobilité, c'est un terme qui revient pour justifier, on parle de mobilité sociale, c'est-à-dire pour justifier des déclassements, etc.
Chirac, mobilité dans l'entreprise.
Ouais, voilà, etc. Il y a, en fait, c'est un terme qui vraiment, bon là, on n'a pas fait non plus une encyclopédie et on n'a pas évoqué ces autres aspects, mais on
les a juste. C'est l'occasion de le faire ce soir.
Voilà, on n'a pas préparé. Mais c'est juste en tout cas de le préciser, parce que c'est pour ça qu'il revient tant pour parler de transport. C'est pour ça que le nouveau président de Lille Métropole, il peut se permettre de faire des tweets comme ça en marquant mobilité égale priorité. C'est parce que c'est un terme qu'on met comme ça, on insinue dans l'esprit des gens pour mieux justifier tout un tas de mouvements qui deviennent obligatoires en fait.
Ouais, c'est une injonction, c'est ça que
tout à fait.
L'interview là. Qui...
C'est-à-dire, c'est à la fois une réalité quotidienne, tout ce qu'il y a de plus physique et immédiate, c'est-à-dire les bouchons permanents qui sont en augmentation permanente depuis des années maintenant. L'augmentation des rames de métro de façon à pouvoir transporter encore plus de voyageurs, c'est tout ça. Donc c'est une réalité physique et en même temps c'est une injonction sociale. Et en fait, voilà ce qu'on a essayé un petit peu de de dire dans le numéro, et notamment au travers de l'interview d'un copain qui travaille un peu sur ces sujets-là, c'est de montrer qu'en fait cette mobilité, elle fonctionne pas pour tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que non seulement en fait tout le monde n'est pas mobile, tout le monde n'est pas mobile de la même manière, et tout le monde n'est pas mobile pour les mêmes raisons. Et donc en l'occurrence, lui, il revient sur ce constat qui est assez singulier, mais qui est hyper important, à savoir que bah, les classes supérieures, elles sont mobiles, elles vantent cette philosophie de la mobilité parce qu'elles y ont intérêt. Par contre, ce sont des classes sociales qui bénéficient d'un ancrage territorial, pour le coup hyper solide, qui date depuis des années, où leurs quartiers, pour le coup, sont abrités de toutes les tentatives de mixité sociale, etc., etc. De l'autre côté, bah, les classes populaires, alors même si c'est hyper compliqué selon qu'on regarde les femmes, les hommes, les employés ou les salariés, mais elles, pour le coup, subissent bien davantage cette injonction-là, en particulier parce que l'injonction à la mobilité, elle a tendance à fracturer ce qu'on a tendance aussi à décrire comme des ghettos, c'est-à-dire alors soit les quartiers populaires, soit alors ailleurs qu'à Lille, mais ces espèces d'énormes zones de grands ensembles, etc., etc., alors que au-delà effectivement de l'aspect ghetto, il y a aussi toute une série de pratiques sociales qui sont associées au fait pour ces classes populaires de pouvoir vivre ensemble, c'est-à-dire la débrouille, l'entraide, l'échange de tâches domestiques, le covoiturage, les taf au black, etc., etc., qui sont fracturées par c'est les injonctions à Pôle emploi qui nous vendent un avenir à 200 km pour aller faire un taf de merde que personne ne veut occuper, etc., etc.
Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est pour les classes populaires plus particulièrement, en fait, l'injonction à la mobilité et même concrètement le devoir de mobilité, c'est que la condition pour en fait garder sa place économiquement, quoi. Ça devient une condition de survie, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, plus vite, s'éloigner pour juste essayer de pas se faire larguer dans le grand jeu de la concurrence, quoi.
La mobilité est une condition du surplace, quoi. C'est un peu ça qu'on a essayé de dire avec ce truc-là.
Et ce qui est intéressant aussi sur cette injonction à la mobilité, c'est que ça va contre des limites physiques de l'engorgement des autoroutes et des trucs comme ça. C'est que même si tout le monde se mettait en branle, en fait, ça peut pas marcher. Enfin, d'une, c'est nuisible comme projet, ce que tu racontais de destruction de liens sociaux et des choses comme ça. Mais même en fait, ça veut rien dire, quoi, de bouger.
C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se voit fort dans le cadre de l'actuelle campagne, alors même s'il a été mangé par autre chose depuis, mais sur les régionales, c'est de dire finalement, en fait, on voit bien que la 1, elle est complètement engorgée, que les gens deviennent fous dans leur caisse, etc. Du coup, par exemple, on va créer un canal qui va s'appeler le canal Seine-Nord, qui va coûter un fric monstrueux, qui va poser toute une série de problèmes écologiques, qui va être construit par des employés européens recruté sur des contrats foireux par la multinationale qui remportera l'appel d'offres, etc., etc. Mais en plus, en fait, l'argument qui sous-tend ce truc-là au départ, c'est de dire regardez, on va créer un canal, comme ça va désengorger l'A1 de tous les flux de marchandises. Alors nous, on n'est pas expert en projection, en politique publique ou je ne sais quoi. Simplement, c'est le constat qui est fait depuis des années, et pas que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est que généralement, en fait, les flux, ou en tout cas les circuits qui autorisent ces flux à circuler, ils se rajoutent aux flux existants, plutôt que de s'y substituer. Et en fait, c'est un peu ça la grande arnaque, c'est qu'on se déplace tous toujours un petit peu plus, les marchandises se déplacent en permanence toujours un peu plus avec des circuits de plus en plus allongés, etc., etc. Et on nous vend deux, trois grands projets pharaoniques qui seraient supposés tout solder, alors que ça ne solde pas grand-chose.
Peut-être on peut parler d'un peu des projets.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On pourrait imaginer qu'il y a des motifs vertueux dans leur tête, mais en réalité, il y a aussi les mécanismes plus habituels de politiques qui veulent marquer leur époque, avoir leur grand projet, avoir leur collaboration avec tel ou tel industriel, etc., sans même parler de coups de main ou de renvoi d'ascenseur entre les politiques, les publics, le public et les entreprises privées de BTP. Il y a cet article donc sur le réseau express Grand Lille. Je pense que c'est celui-là dont tu voulais parler.
Ouais, entre autres, effectivement, il y a deux grands projets qui sont du conseil régional. Là, c'est le canal Seine-Nord. On en a beaucoup parlé pendant la campagne, mais un autre dont on a un peu moins parlé et qui est aussi qui est très important, c'est le réseau Express Grand Lille. Alors c'est typiquement un peu ce que tu disais, c'est un peu le grand projet qu'a voulu mettre en place Percheron, donc qui est le président du conseil régional sortant, qui ne se représente pas là, qu'il a voulu mettre en place, et que je pense qu'il est bien triste qu'il n'ait pas vu le jour avant qu'il ait pu finir son mandat, mais bon. Alors en quelques mots, le réseau Express Grand Lille, donc ben c'est pareil, hein, ça part de cette intention de vouloir décongestionner l'A1, qui effectivement le matin a, les chiffres, je crois c'est près de 150 000 personnes qui arrivent le matin sur l'île métropole par l'A1. Donc décongestionner l'A1 par le train, donc ça sur le papier c'est génial. Donc
c'est
en fait,
écolo.
C'est écolo, voilà, développement durable, c'est l'avenir, c'est génial. Donc en fait, quand on y regarde d'un peu plus près, dans les détails, les chiffres, etc., donc c'est quand même un projet qui est vraiment massif. Donc il y a plusieurs points. Il y a d'abord créer une ligne un peu haute vitesse entre Lille et le bassin minier, notamment à Hénin-Beaumont, et rénover des lignes qui permettraient, donc à partir de cette ligne qui va jusqu'à Hénin-Beaumont, d'aller ensuite vers Lens et Arras, vers Douai, et vers le nord, vers Armentières, Tourcoing, Roubaix et même jusque Courtrai. À ça s'ajoute une rénovation un peu des trains, et aussi la construction de 4 gares, une à 4 cantons, une à Léquin, une à Hénin-Beaumont du coup, qui serait plus une espèce de gare, on appelle ça une gare à betteraves, parce que c'est une gare qui serait construite dans un champ où on va en voiture du coup. Et une qui est pas la moindre, qui serait une gare souterraine à Lille-Flandre. Et donc tout ça, pour l'instant, c'est chiffré à 2,3 milliards d'euros. Sachant que, comme tous ces projets, c'est fort minoré.
4,6.
On est plutôt au moins au double, enfin, très concrètement, pour les gens qui sont penchés un peu là-dessus sérieusement. Notamment parce que justement typiquement la gare souterraine de Lille-Flandre, elle est estimée à 500 millions alors qu'il y en a une qui a été faite à Anvers qui est similaire et qui a coûté 1,5 milliard, voilà, enfin rien que ça. Donc voilà, on est sur un truc qui coûte hyper cher, sachant que pour ça Percheron, il y a eu cette phrase mythique en disant les 2 milliards on va les trouver, on les trouve toujours. Donc on voit bien qu'à un moment donné, quand ils veulent, ils peuvent, hein.
Oui.
Mais alors ce qui est intéressant, c'est plus par rapport aux chiffres, c'est-à-dire qu'en fait ce réseau express là, il est censé transporter 30 000 personnes en plus. Donc par rapport aux 150 000 personnes qui arrivent à Lille le matin, autant dire que ça décongestionne pas grand-chose, et que dès qu'il y aura, l'A1 sera un peu désengorgé, en fait il y aura d'autres personnes qui vont reprendre la voiture et qu'on arrivera exactement au même. Ça, les gens, ils le savent très bien, mais ils font mine de pas le voir. Alors que y a des choses typiquement à faire sur le covoiturage, parce qu'aujourd'hui, je vais pas aller trop dans les chiffres, mais en gros il y a 1,1 une personne en moyenne par voiture sur la 1 le matin. Et en fait, si on passe à 1,3, tout le gain du REGL, donc les 30 000 personnes, sont inclus dedans. Bon voilà, on va pas rentrer trop dans les chiffres, mais tout ça pour dire que c'est beaucoup d'argent pour que quelques mesurettes pour favoriser le covoiturage, notamment inciter les gens à faire ça, sans parler bien sûr de simplement la rénovation des lignes actuelles, de la rénovation des rames, etc., qui inciterait les gens à reprendre le train.
Et ce dont tu parlais juste avant, ça, c'est la grande difficulté par rapport au fait que les gens partagent des voitures un petit peu, c'est casser tout l'imaginaire de la voiture individuelle qui structurait la pensée d'ailleurs des politiques. Et puis aussi pour la grandeur de l'industrie automobile française, il fallait vendre, etc. J'ai lu un article récemment qui disait que la moyenne d'âge pour l'achat d'une voiture neuve aujourd'hui était à 55 ans.
Ah ouais.
Et chez Citroën, pour acheter l'âge moyen de l'achat de la première Citroën neuve, est à 60 ans. Voilà. Donc c'est voilà le mythe de la voiture
individuelle. À 60 ans, t'as raté ta vie.
T'as pas une Citroën. Bah, parce bon, pardon, je t'interrompais.
Non, mais sur ce point, en fait, justement, ce qui est assez intéressant, quand on en fait connecte les politiques de transport à d'autres politiques, on voit en fait toutes les contradictions qu'il y a à dire on va vous vendre de la mobilité douce, gentille, on va mettre des Vélil, peut-être un jour un tramway, etc., etc. Parce que, en fait, les politiques qui visent, au moins par le discours, à dire qu'il faut prendre davantage sa bagnole, moins, enfin, être plus nombreux dans la même bagnole, et puis prendre moins, je sais pas quel autre type de transport. En fait, ça se télescope avec un autre truc, et notamment des politiques de logement de type néolibéraux, qui favorisent l'accès à la propriété, dans des zones périurbaines. Et donc, du coup, plus vous allongez le circuit de travail et les déplacements entre logement et espace de travail, et ben plus vous allongez les distances, plus vous stimulez les transports, et plus vous vous retrouvez avec le bordel que plus personne ne sait gérer aujourd'hui. Quoi. Et donc voilà, tous les discours sur la mobilité douce, etc., il faut les prendre avec d'autant plus de précautions. De toute façon, tant que le système économique est organisé de cette manière-là, tant que les politiques de logement sont structurées autour de ces objectifs-là, eh ben, il n'y a pas de chance qu'on sorte la tête du verre, quoi.
Ouais, juste un dernier petit mot pour le réseau Express Grand Lille. Il y a eu cette phrase de Percheron, encore lui, qui est assez magnifique, qui disait qui va nous manquer. Voilà, parce que en fait, je l'ai fait quand on se tape les conseils régionaux, c'est quand même un sacré blagueur, quoi. Et entre autres, il disait « Tout va tellement vite que nous pouvons être technologiquement dépassés dans 2 ans sur ce projet. » Donc, il l'engage.
Oui, n'importe quoi.
Voilà. Il dit tout à fait vrai.
Il a raison, en plus. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est magnifique. Enfin, voilà. Il engage la région sur un truc qui va coûter au bas mot 4-5 milliards. Bon, le truc n'est pas encore voté pour l'instant. Ils ont voté la continuité du projet. Il y a eu un débat public. Il y a eu un organisme qui a rendu son... Voilà, un organisme objectif qui a rendu un avis en ayant consulté la population, etc. Maintenant, ça sera en fait à la nouvelle majorité de décider ce qu'il en sera. Sachant que tous les partis ont voté pour la continuité du projet, sauf Europe Écologie qui s'est abstenu. Donc, il y a quand même de bonnes chances pour que ça se fasse. Voilà.
Peut-être on va faire une petite pause musicale et puis on causera de la suite de ce journal après. On rappelle qu'on peut nous appeler au 03 20 91 24 00.
chars. Trois mômes se battent dans une mare. Le mec des chars et se barre. La fumée des usines, le béton, les automobiles. La lune crie sur le bitume. Les gangsters, les grilles, les murs. Puissance glacée et lugubre. D'une existence insalubre. La fumée des usines, le béton, les automobiles.
De retour dans La Voix sans maître, à l'instant, on vient d'écouter le groupe A3 dans les WC. Le titre Usine, tiré de la compilation 1978-1980. On retrouve nos invités de la brique avec un nouveau sujet.
Eh oui, c'est ça, on va continuer, puisque ce numéro sur la mobilité et les transports aborde ça sous différents angles. Et du coup, on va continuer à causer de ce numéro de la brique et causer peut-être de Transpol. On en parle régulièrement, mais
voilà, bah Transpol. L'idée c'était de revenir, sur ce transport-là, sur cette société-là, donc la société Keolis pour la nommer, revenir alors sur toute une série de choses qui ont déjà un petit peu circulé dans le milieu militant. Dont la véracité de l'analyse tend à se vérifier de mois en mois, hein, puisque ces derniers mois on a assisté à toute une série de projets de réforme et de réformes tout court. Qui tendent à aggraver en fait la politique qui était déjà installée jusqu'alors. Donc du coup c'était revenir un peu sur ces différents éléments là, et notamment sur la fin de la gratuité qui a été votée main dans la main par le Parti Socialiste et les Républicains, donc à LMCU, et qui vise à emboutir très largement en fait des droits qui, si on s'en souvient bien, alors malheureusement on n'a pas assez parlé dans le canard, c'est un regret, mais qui avait été acquis de hautes luttes, notamment dans le courant des années 90, dans le cadre de luttes, notamment des collectifs de chômeurs, et donc des droits qui avaient été acquis, qu'on nous a sucrés au nom d'arguments qui renvoient très directement à la manière dont fonctionne Keolis. Keolis, c'est quoi ? C'est une multinationale, qui est cotée en bourse, c'est une multinationale cotée en bourse qui chiffre à 50 milliards de chiffre d'affaires pour l'année dernière, plusieurs millions d'euros de bénéfices bien évidemment, mais Keolis qui est en fait déficitaire sur le réseau le métro de la métropole.
Chouette.
Voilà, donc ce qu'on pourrait accueillir comme une bonne nouvelle, évidemment, eux n'ont pas lu de cette oreille, et précisément non du fait que, dans le cas du... Pardon ?
Il y a trop de chômeurs ?
Il y a trop de chômeurs et donc il y a trop de fraudeurs. Effectivement, c'est ce qui ressort un peu de leurs analyses, c'est-à-dire que dans le partenariat public-privé qu'avait signé la métropole avec Keolis, il y avait des clauses qui stipulaient qu'en fait la fraude devait être limitée à un certain pourcentage, etc. Et en fait, ce pourcentage en question a complètement explosé. Du coup, Keolis pas content. Et Keolis...
Je crois que c'était 12 et on est en fait à 16% de transport fraudé, un truc comme ça.
Ouais, ouais. Ah oui, c'est pas non plus Pérou, quoi.
Ouais. Pourquoi le Pérou, non, mais... De fait, Keolis a pété un câble, Keolis demande des comptes, et donc l'île Métropole nous les demande à son tour. D'où la fin de la gratuité, la réforme donc de la tarification. Alors, n'avoir l'air de rien, pardon, parce que, a priori, pour ceux qui ne payaient rien jusqu'à maintenant, il s'agirait simplement de payer 7 euros. Alors, je rentre pas dans le détail de la tarification, mais 7 euros par mois, on peut dire que c'est pas grand chose, simplement symboliquement ça veut dire que on a aboli cette frontière entre la gratuité et le fait de payer, et deuxièmement en fait on a complètement réformé la manière de calculer qui devait payer quoi, au point de produire une espèce de bordel administratif considérable qui fait qu'il est tout à fait probable que des gens ne s'y retrouvent pas du tout et que les droits auxquels ces gens ont encore droit, auxquels ils peuvent accéder, ils ne les réclament pas. Donc il y a un enjeu symbolique, la fin de la gratuité, il y a un enjeu administratif, presque sociologique, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que ce qui caractérise beaucoup les plus pauvres d'entre nous, c'est qu'ils ne recourent pas à leurs droits. Et donc contre le discours d'ailleurs sur la fraude, il faut d'abord rétablir ce truc-là, c'est que les pauvres ne réclament pas assez les droits qui leur sont dus. Donc ça c'est le premier niveau qui a trait vraiment à la tarification. Deuxième niveau dont on a un petit peu parlé, c'est la question du contrôle, et qui va de pair avec le précédent. forcément, puisque donc quand, encore une fois, quand il s'agit de financer des projets qui tiennent à cœur au pouvoir public, là l'argent, il n'y a pas de problème. Donc on a débloqué plusieurs millions d'euros pour installer des portiques dans toute une série de stations. Donc on revient un petit peu là-dessus.
9 millions d'euros pour 7 portiques.
Voilà, donc
c'est cher le portique.
Enfin, 7 stations avec des, j'imagine peut-être un peu plus qu'un portique, mais ouais, de fait,
7, ouais, voilà. 7 stations, 9 millions d'euros.
Voilà, donc peut-être de...
Tant dire, faudra en prendre soin, les gens.
Voilà, du portique en or massif, donc la totale. Et simplement, voilà, ce qui est... le problème, c'est que cette politique-là, elle s'accompagne d'un durcissement, en fait, des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes qui fraudent, donc on revient là-dessus. Et notamment, du coup, on a tenu à aller chercher donc, un collectif dont on se sent assez proche, qui est actif depuis 6 ans maintenant sur la métropole, donc qui s'appelle la Mutuelle des Fraudeurs, et qui ont consacré une longue interview, qui reviennent un petit peu sur... voilà, sur les motifs qui ont présidé un peu la création du collectif, ce qu'ils font, quels sont leurs objectifs politiques. Et du coup, en particulier, c'était l'occasion de repréciser leur logique de fonctionnement. C'est un collectif complètement horizontal, donc le principe est très simple. Tous les premiers jeudis du mois, vous vous retrouvez à l'Insoumise à 19h, et puis vous filez, alors selon les mois, donc c'est, je crois, 5 ou 10 euros. Et puis, si d'aventure vous avez la malchance de tomber sur les leurs, on vous rembourse l'amende sonnante et trébuchante, donc à l'Insoumise, tous les premiers jeudis du mois, à 19h. Donc ça, il s'agissait de revenir un peu sur ce qu'ils font à ce niveau-là depuis longtemps. L'autre niveau sur lequel on a voulu revenir, c'est sur le projet qu'ils sont en train de, ils et elles sont en train d'initier, à savoir que il y a plusieurs collectifs un peu dans le sillage de leur initiative qui cherchent à établir une forme de plateforme qui viserait un petit peu à défendre le principe de la gratuité dans les transports. Il faut savoir que les transports jusqu'aux années 80, c'était une régie publique, et que depuis, c'est un partenariat public-privé dont on subit tous les jours un peu plus les conséquences. Et l'idée, c'était de revenir là-dessus et de critiquer aussi très vertement, aussi radicalement qu'il se doit, les mesures qui s'accumulent pour mieux contrôler les usagers, et en particulier donc le recours aux puces RFID, le durcissement de l'encadrement réglementaire de la fraude, qui est de plus en plus assimilé à la délinquance, etc., etc.
Oui, j'avais même pris en photo, parce que j'avais trouvé ça hallucinant. C'était 89,50%. Si t'as fraudé, tu l'as pas volé d'amende. Si tu
89, si 50 euros.
Ouais, 50 euros d'amende. Si t'as fraudé, tu l'as pas volé. C'est d'une grosse agressivité, quoi.
Et alors, il faut savoir que.
ils se cachent pas de leur hostilité par rapport au fait de considérer que tous les gens qui sont dans la rame sont des fraudeurs potentiels. Qu'on aime ça ou pas, je veux dire, c'est absolument et puis en plus c'est que du texte, quoi. C'est vraiment très agressif, quoi. C'est
alors autant là-dessus...
tu sens bien que t'es pas chez toi dans la rame de métro, quoi. T'es chez eux et que tu leur dois du pognon et qu'ils sont bien gentils de te tolérer, quoi. C'est
alors autant là-dessus ils se cachent pas. Ouais. Autant visiblement il y a quelque chose qui cache, et ça c'est un autre numéro parce qu'on n'a pas trouvé la place pour l'évoquer, mais il faut savoir que donc quand vous sollicitez la technologie RFID et donc du contrôle et donc des caméras, etc., vous êtes officiellement astreint à une série d'obligations pour respecter un minimum les libertés individuelles. Du coup, il y a des chercheurs du côté de l'île 3 qui ont demandé à Transpol ce qu'ils faisaient un peu de leurs données. Et Transpol a refusé de leur répondre, alors que c'est une obligation légale. Donc il n'y a pas que les fraudeurs qui fraudent, Transpol fraude aussi. Donc ça, c'était, oui, je pense, important à évoquer pour bien comprendre la manière dont on se fait un petit peu enfumer.
Et peut-être, vu que le temps avance et il y avait encore quelques trucs qu'on voulait causer, peut-être on peut causer soit du vélo, soit de Delta 3, ou de...
Ouais, vélo, on peut faire
un petit bout sur le vélo.
Ouais, du coup, il y a un article qui est consacré à ça. Alors, il est assez général, où on a essayé de mettre pas mal d'aspects en même temps, parce qu'on a brassé pas mal de données, de rencontres, etc. Mais qui pose une question assez simple, en fait, sans forcément y répondre, bien sûr. Mais bon, et c'est le titre de l'article: mon vélo est-il révolutionnaire? Et qui donc essaie de voir un petit peu à la fois au niveau de l'histoire du vélo, de ce qu'il a été, comment il est apparu, ce qu'il a été, et ce qu'il peut devenir, quoi, essayer d'un peu poser cette question-là. Alors, faut savoir déjà que historiquement le vélo c'est quelque chose qui s'est développé pour des arguments qui nous semblent très familiers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait il était plus rapide, plus économique et plus endurant que le mode de déplacement d'alors qui était le cheval. Donc on parle là de la fin du 19e siècle. Et en fait, donc, c'est aussi les cyclistes qui ont été les premiers à manifester pour avoir des routes lisses, etc., qui ont favorisé le développement de la voiture, qui elle-même a après relégué le vélo assez rapidement. Donc, il y a une espèce de la philosophie qui a participé de la création du vélo, c'est celle de l'industrialisation, quoi, la révolution industrielle. On crée des objets, on crée des machines pour pouvoir aller plus vite, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se le réapproprier aujourd'hui, bien évidemment. Là, on est, nous, plutôt des grands, grands fans du vélo. On pose un peu quelques questions. Alors, le vélo, après, ça a été je fais rapido quand même, mais ça a été un mode de transport qui était vraiment un mode de transport populaire par excellence, disons, surtout les années 30 et 50, quand il a commencé à devenir accessible. Et où on pouvait encore rouler sans se faire trop emmerder par les voitures, surtout à la campagne, etc. Et après, en fait, à partir des années 50, 60 surtout, c'est devenu la voiture se développant, se démocratisant, les infrastructures étant créées pour le développement de la voiture, le vélo c'est devenu en fait le véhicule non plus populaire, mais un véhicule de pauvre. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, il est resté dans l'esprit de beaucoup de personnes. Alors, pas tellement de la génération des 20-30 ans, mais quand on va parler un peu aux personnes qui ont 45, 50, encore plus les anciens et ce qu'on a un peu fait, il y a toujours ce truc quand même, cette assimilation du vélo à un truc, tu peux pas te payer de voiture, ça, c'est quoi le problème, c'est quelque chose de pauvre. Et surtout, pour ce qui est important aussi par rapport aux classes populaires aujourd'hui, c'est-à-dire que l'injonction qui peut descendre comme ça parfois de dire il faudrait que vous utilisiez, vous remettiez au vélo pour l'écologie, etc., c'est un truc qui forcément peuvent pas forcément prendre très bien parce que pour eux, au contraire, la voiture, en plus que c'est généralement des personnes qui en ont plus besoin pour se rendre au travail, et c'est un outil d'intégration important, la voiture. Et ils n'ont pas ce même rapport, au vélo, quoi, forcément. Et on passe. Après, on peut parler aussi de la politique de la métropole. Alors, vite fait, le budget vélo de la métropole, niveau aménagement, il a baissé. Il est passé de 4 millions d'euros en 2011 ou 12 à 1,5 million maintenant. Il y a une bonne raison à ça. Enfin, c'est maintenant, c'est-à-dire comment on réduit un peu, on tasse un peu tous ces budgets-là, hein, puisqu'il faut, comme disait Perceron tout à l'heure, on les trouvera les 2 milliards, donc il faut bien gratter à droite à gauche. Mais la métropole investit beaucoup dans le Vélil. Le Vélil, donc, en fait, il y a 7 millions d'euros. Il faut savoir qu'en fait, tout coût cumulé, le vélo, l'entretien, etc., la logistique, ça coûte 4 000 euros par an par vélo. Donc en fait, on voit que c'est clairement un choix qui est fait, qui est quand on interroge en fait la métropole, etc., sur la politique du vélo, en fait ils disent mais regardez on fait le vélo, en fait ça c'est pour masquer le fait qu'ils font pas beaucoup d'aménagements pour faciliter la vie des cyclistes, en fait, parce que quiconque prend un peu son vélo peut se rendre compte que c'est quand même
c'est la galère permanente,
la galère, et c'est la guerre, et c'est hyper dangereux. Il y a cette année, il y a deux personnes qui sont mortes à Lille, juste sur Lille même. Et en fait, eux, c'est vraiment l'intérêt du vélo libre service, c'est vraiment d'être un truc qui est très visible, en fait, alors que des aménagements, des choses qui facilitent la vie des cyclistes. On ne peut pas bien communiquer là-dessus, en fait. Donc, il y a quand même vraiment quelque chose à critiquer là-dessus. Après, le Vélil a des gros problèmes que la Brique a déjà aussi beaucoup développé. Là, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais il a aussi eu quelques avantages. Voilà. Mais en fait, en gros, ce qu'on voulait dire surtout, et je terminerai là-dessus pour le vélo, c'est que il y a un impensé quand on pense qu'en fait, juste... une ville où on serait tous à vélo, etc. Ça serait une ville merveilleuse et ça serait, on serait dans une société parfaite. C'est clair que ça serait très 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 agréable. Mais si on ne remet pas en cause derrière ce qui est notre rapport aux marchandises, notre rapport à la consommation, ça serait absurde en fait. Parce que ça voudrait dire que dans les centres-villes, on serait tranquillement avec un bon air en train de circuler en vélo. Mais par contre, il y a toutes des zones de logistique, on pourra du coup en parler avec, après de Delta 3 vite fait. Il y a tout un tas de zones logistiques qui sont en dehors des métropoles où ben, justement ben, les gens vont s'échiner le dos là-dessus pour faire en sorte que nous, on puisse, enfin les urbains, puissent avoir leurs marchandises, sans parler des camions, etc., qui ramènent ça. Donc en fait, quand on pense à une société du vélo, il faut vraiment voir au-delà de la ville et penser à vraiment à repenser tout le mode de tout l'aménagement territorial,
oui,
et le rapport aux marchandises.
La taille des villes, ouais, etc. Ouais, ouais.
Et alors, on est un peu ric-rac dans la fin de cette émission, mais... Juste, il y avait, du coup, tu viens de le dire, un papier là sur Delta 3, donc on va peut-être pas en causer beaucoup. Tu vas en dire deux mots en trois minutes, en une minute.
Bah, grosso modo, bah, de toute façon, l'idée c'est jamais de détailler les articles en long.
Comme ça, vous pouvez racheter à la brique.
Mais voilà, tout à fait.
On aimerait bien, mais on a une heure.
Ceci est une opération publicitaire, mais voilà, Delta 3, en gros, c'est un nom un petit peu bizarre qui désigne simplement le plus gros site logistique de toute la métropole, même au-delà. Alors, site logistique, c'est aussi une expression bizarre, mais ça veut simplement dire que c'est des énormes entrepôts avec plein de salariés, plein de marchandises, et des gens qui reçoivent des marchandises de Chine à Decathlon, l'entrepôt Decathlon, pour ensuite le renvoyer dans les magasins Decathlon de Chine, faire pareil avec des marchandises polonaises et les renvoyer dans les magasins Decathlon de République Tchèque, etc., etc. Et faire un petit peu la même chose pour tout ce qui a trait avec le e-business. Et en fait, c'est une histoire qui a été très largement vantée par Les Échos, Le Monde, La Voix du Nord, qui présente ça comme un Eldorado, parce que ça crée de l'emploi et puis ça crée de l'activité. Et nous, l'idée, c'était d'aller voir un peu l'envers du décor et d'aller parler directement avec les gens qui sont prises avec ce mode de fonctionnement et voir à quel point, voilà, comment...
C'est des emplois de merde.
C'est des emplois de merde que personne ne veut vraiment occuper toute sa vie, mais qui les occupe toujours encore à 60 ans avec une prime à l'ancienneté proche du néant et des processus de travail qui se technologise en permanence, et voilà. Donc je rentre pas trop dans le détail, mais l'idée c'était de mettre donner un peu de contre-jour à ce qui se dit habituellement sur cet espace là qui est hyper déterminant, parce qu'en fait c'est ça qui explique toutes les marchandises avec lesquelles on se retrouve entre les mains via internet ou via les grandes surfaces.
Yes. Je sens que c'est ce sur quoi les décideurs misent maintenant pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment faire de la région une espèce de zone, une immense zone logistique. C'est pour ça qu'Amazon aussi s'est installé, etc.
Et du coup, on arrive à la fin de cette émission et on va laisser la place à Bricolage pour tous et toutes. Et juste, il y avait un rencard que tu voulais annoncer vite fait. Est-ce que c'était quoi, il y a un rencard
le 17 décembre à la Splendos. Alors, nous, à la Brique, on avait fait un appel suite aux attentats, etc., et à l'état d'urgence et à la guerre qui a recommencé. Et du coup, en fait, hier, il y a eu une réunion à la Bourse du Travail à FIV. Et de gens, voilà, de bonne volonté, qui veulent un peu se mettre ensemble pour penser ça et voir des modes d'action, ce qu'on pourrait faire. Et il y aura une deuxième réunion, on espère, voilà, un peu plus dense. Et c'est, voilà, c'est pas organisé par la Brique, c'est pour tout le monde. Hier, en l'occurrence, c'était même Sud qui avait initié le truc, mais maintenant, c'est pour toutes les personnes qui veulent intervenir et participer à ça et aider à réfléchir et voir les modes d'action qu'on peut faire. Voilà, c'est le 17 décembre à la Splendos à 18h30, je crois.
Ok, on verra. Ciao, la semaine prochaine.
Merci. Quel talent, vous êtes pile ponctuel à l'heure. Vous avez même quelques secondes d'avance avant le début de l'indicatif de Bricolage pour tous. Vous êtes beau, chevelu, barbu, vous êtes beau et j'adore le vélo. Merci.
Bricolage pour tous.
C'est l'apothéose de la crétinerie.
Voilà, répète, c'est après fini, moi. Les émissions sérieuses, terminées.
Allez hop, du bordel.
Les saucissons pour tout le monde, ceci sont cacahuètes.
Mais ils ont compris, les gens.
Fromage. Allez, il y a même du maroilles. Allez,
écoute, de Radio Campus.
Pas toujours. Oui, Marcel, qu'est-ce qui se passe, Marcel? Oui, viens. Qu'est-ce qui se passe, mon petit chat? Oui, Benoît. Oui, monsieur Noir, pardon, excusez-moi. Oui, viens. Qu'est-ce qui se passe? Hein, quoi? Oui, mais pourquoi? Vous êtes où? Hein, quoi? Oui, mais viens. Mais va t'installer, mon petit chat. Marcel, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bien. Oui, mon disque, il n'est pas encore calé, je sais.
Pardonnerai aisément mon émotion, car
bonjour,
c'est
monsieur
Noir.
Bonjour, monsieur Nix. Comment normalement,
va
normalement, on dit bonjour
après le début. Là, c'est pas sur l'indicatif, sur le générique.
Mondiaux visuel.
Ouais, en même temps, t'as commencé à dire bonjour, c'était même pas encore ton émission. Hein. Oui,
c'est parce que je suis très énervé et je suis très énorme.
C'est parce que t'as pas eu cadeau de marathon.
Oui, ça doit être tout à fait. Alors, calé un disque, enfin, ça doit être dans mes cordes. Hein.
Beau bordel.
Beau bordel. Alors voilà.
Oh, mais c'est que t'as un joli cul quand tu cales contre ton disque. Ah non, il m'entend pas, il est en train de caler le disque. Hein. Ah, c'est bon. Disais que t'avais un joli cul quand tu calais ton disque, que t'as oublié d'arrêter d'ailleurs, il est plus calé du tout là.
Ouais, il est plus calé du tout, c'est sûr. <cycle. rire> Ah mais vous me parlez aussi, ce noir, moi j'aurais pu, je suis poli quoi, merdelle de cul. Supprimer cette
émission. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Oh, ça mitraille sec.
Alors allez, ça y est.
Non.
Non.
Je sais toujours pas ce que je vais mettre.
Bon. Attention, ça commence.
Ça éclabousse. Eh ben on va mettre celle-là. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah voilà, c'est Bricolage pour tous.
Bonsoir. Vous écoutez Bricolage pour tous.
Sur Radio
comme
Campus.
Tous les vendredis.
106,6.
Entre 21h et 23h, sauf ce soir.
Campuslille.com.
Parce qu'on a une belle bande de branleurs dans l'espace détente et convivialité. Et que ça va durer un peu. Des nouvelles de Fly Terror, on n'en a pas eu.
Bah moi non plus.
Aujourd'hui, au programme de Bricolage pour tous... J'avoue Combo, qui sera en concert la semaine prochaine à la MAC, que vous devez aller faire un petit repérage peut-être pour la semaine prochaine, monsieur Noir.
Mais je sais pas, je croyais qu'ils venaient ici. Mais
ah
ouais,
mais ils arrivent, ils sont là.
Vous expliquer, mes chers auditeurs et chères auditrices, grave le bordel parce que moi j'ai rien compris et j'avais compris qu'ils jouaient ce soir et que donc du coup on faisait pas le direct la semaine prochaine. Donc du coup, moi j'ai rien branlé.
Alors, voilà. Ils viennent présenter.
En fait, c'est pas eux qui jouent ce soir. Enfin, on invite des groupes parce qu'ils sont
rien,
là la semaine prochaine.
Vous
et puis,
avez
en
rien
fait,
suivi
et voilà.
Du tout, monsieur Doigt.
Et le troisième groupe, on n'a pas de nouvelles et c'est aussi bien.
je ne sais pas ce que vous avez compris. Donc, je récapépète. Joudou Combo joue la semaine prochaine à la MAC.
Oui.
Et nous aurons deux représentants, d'ailleurs, représentants du groupe, dans quelques instants au micro.
D'accord.
Pour présenter le concert à la MAC la semaine prochaine.
Voilà, elles ont intérêt à crier fort parce que moi, pendant ce temps-là, je fais les balances de l'autre côté de la vitre.
On va s'arranger.
On commence par la batterie.
La grosse caisse surtout.
Oui.
Et donc, vous pouvez aller faire un repérage la semaine prochaine pour diffuser le concert.
Ok, sauf que la semaine prochaine, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Hein. Parce que vendredi 18-20h, je suis à la maison de la culture. Ah, Thibaut, il est là, c'est magnifique. C'est que
Valérie et Clémence, voilà, entrez.